Bonjour et bienvenue au balado officiel du Festival Regard. Je m'appelle Nicky Lamontagne, responsable des projets spéciaux au Festival, membre du comité de sélection et animateur de cette série de balados. Cette année, on vous propose 6 rencontres entre cinéastes qui viendront discuter de cinéma, de courts-métrages et des enjeux de société qu'elles explorent à travers leurs œuvres. On remercie Balado Boréal pour toute l'aide fournie dans l'élaboration et la réalisation de ce projet, ainsi que le Bureau du cinéma de Saguenay pour son soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'entretiens avec Florence Lafond, scénariste et réalisatrice du film « Jusqu'à ce que tu meurs », présenté en grande première à Regard. Bonjour Florence.
Bonjour.
On a aussi avec nous Gabrielle Demers, scénariste et réalisatrice du film « Nuit blonde », qui a notamment remporté le prix de la critique AQCC à Cinémania. Le film avait aussi obtenu une mention spéciale de Denis Villeneuve lors de la remise de son fameux prix au Gala Prend Secours en 2022. Le film va être présenté à Regard dans notre toute nouvelle compétition « Short and Queer ». Ça va bien, Gabrielle? Bonjour.
Ça va bien, bonjour.
Florence, jusqu'à ce que tu meurs, c'était sa grande première au Festival Regard. Tu disais sur scène que c'était un rêve de présenter ton film au Saguenay. Pourquoi?
Ben, en plus, c'est drôle parce que c'est le premier festival auquel on l'a envoyé. Puis, il n'était même pas fini quand vous l'envoyez. Là. C'était vraiment en mode on vise Regard. T'sais. Mais en fait, moi, quand j'ai fini l'UQAM en cinéma, mon premier film en sortant de l'UQAM, il avait été prêt à tourner à tout prix. Mm-hmm. Puis on avait gagné une petite mention. Puis ça, puis c'était comme ma première lancée, moi, en tant que réalisatrice qui suit son film en festival. Puis j'avais tellement aimé l'ambiance de Regard. Puis ça avait été significatif pour moi quand même, juste cette petite mention-là, puis de donner un peu confiance. C'était un film qui n'avait pas été facile, tu sais, fait que là, de revenir avec... j'ai comme pris une pause, puis là, de revenir avec... quand je replonge dans la réalisation avec un premier film à Regard, c'était comme boucler la boucle un peu.
Puis tu disais que même ton équipe de film n'avait pas encore vu le film. Comment ils ont réagi? Ça s'est bien passé.
Vraiment bien. Mais tu sais, c'est ça, ils avaient vu... les comédiens étaient revenus en poste pour prendre des répliques. Fait qu'ils avaient vu le montage, mais ils n'avaient pas vu la colo ni la musique. Mais c'est un film qu'on a fait juste avec le calque. Fait que on n'avait pas beaucoup d'argent, puis on n'avait pas d'argent pour se payer une première. fait que là, c'est ça. Puis là, quand on a su qu'on était prêt à Regard, c'est comme, ah, tant mieux. Puis on a essayé de venir en gang. Fait que les deux comédiens étaient là, directeur photo, productrice, directeur artistique. Puis c'était très touchant. Je pense que c'est ça mon grand stress, c'est que c'est surtout que les collaborateurs aiment ça parce que eux ils te font confiance. Puis tu sais, ils mettent leur talent entre tes mains. Mm-hmm. Puis c'est toi qui es garant de la qualité du film, c'est pas eux, tu sais. Eux, ils donnent tout leur talent, mais ultimement, si moi je fuck up, ils sont pas mis en valeur. Donc, que le plus stressant pour moi, c'était que les collaborateurs se sentent fiers du projet puis qu'ils n'aient pas honte de leur apport, tu sais.
Donc, c'est réussi.
Oui.
Vos deux courts-métrages reflètent un peu des nouveaux paradigmes qu'on peut avoir dans nos relations intimes. Montrent aussi des réalités qu'on voit moins à l'écran, qu'on commence à voir un peu plus, mais quand même. Gabrielle, dans Nuit blonde, met en vedette Patrick Dorneval, un comédien autiste, de qui vient un peu l'idée du film, je pense. Comment tu l'as rencontré?
Oui, bien, on a travaillé ensemble dans une friperie organisme de réinsertion sociale. Okay. On était ensemble dans un backstore. Moi, je triais des vinyles, lui, il triait des DVD. Puis on a travaillé ensemble pendant 3 ans à cette place-là, avant que j'aie envie de faire un film. Puis tu sais, on avait beaucoup de temps pour se parler. Puis un moment donné, ben, je lui ai montré mes films que j'avais faits. Puis tu sais, mes films ont souvent une thématique par rapport à la sexualité. Ouais. Puis là, il s'est ouvert à moi. Il a commencé à me dire que, tu sais, c'était son rêve de jouer dans un film. Puis quand il me parlait des films que lui appréciait, ce qui revenait, c'était que le personnage principal, c'était souvent un homme blond. Tu sais, qui comme commençait à me dire qu'il trouvait ça vraiment beau, les hommes aux cheveux blonds. Puis ça m'a donné envie d'écrire ce film-là. Puis en parallèle, j'avais fait des lectures sur le travail du sexe masculin. Ouais. Puis j'avais lu beaucoup de récits de travailleurs du sexe qui, justement, travaillent avec des clientèles neuroatypiques ou avec des limitations fonctionnelles, puis qui se sentaient très utiles dans leur travail en faisant ça, puis que Ben pour moi, je trouvais que ça, c'était comme une facette intéressante à montrer du travail du sexe qui est beaucoup de l'ordre du don de soi et de l'empathie. Mm-hmm. Fait que ces deux univers-là pouvaient se mélanger, la sexualité des personnes autistes, que j'ai l'impression qu'on n'aborde pas souvent, puis que si on l'aborde, c'est entre deux personnes neuro-atypiques. Ouais. Alors que Patrick, lui, ce que je trouvais touchant, c'est qu'il ne se considérait pas comme une personne autiste. T'sais, il voulait être vu comme quelqu'un normal, qui a des désirs pour des personnes neurotypiques, justement. Mm-hmm. Fait que, ben, tu sais, moi, j'avais des discussions avec lui par rapport à ça. Puis, tu sais, beaucoup de discussions sur pourquoi je voulais faire ce film-là, puis lui faire comprendre que ça allait toucher les gens, puis qu'on allait pouvoir défaire des préjugés. Parce que je pense qu'il y a des gens qui mm-hmm. pensent qu'il y a des personnes autistes qui n'ont même pas de sexualité. Mm-hmm. Fait que ouais. Ça a été ça, le gros du film, c'est de faire comprendre à Patrick pourquoi ce film-là est important, puis que c'est pas, mettons, une histoire sur lui, c'est pas un documentaire, c'est un personnage, puis ça, le comprenait très bien parce qu'il était lui-même passionné de cinéma et il lisait des choses sur les acteurs, puis ce métier-là l'intéressait beaucoup, tu sais. Fait que, ouais.
Le tournage s'est très bien passé aussi de ce côté-là.
Oui, c'est ça, puis tu sais, pour lui, c'était tellement formidable de pouvoir jouer avec Danny Boudreau, tu sais, mm-hmm. parce que, tu sais, Danny, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu, il a joué dans plusieurs pièces, fait que, tu sais, il pouvait le chercher sur Google puis voir ce qu'il avait fait, puis tu sais, il trouvait ça hot de travailler avec un acteur professionnel. Mm-hmm. Puis la chance que j'ai eue de travailler avec Danny, qui était tellement professionnel avec Patrick, tu sais, il traitait comme un acteur, tu sais. Fait qu'il y avait vraiment cette impression que les deux étaient sur le même pied d'égalité. Donc ça donnait beaucoup de confiance. Mm-hmm. Puis ça permettait à Patrick de se dépasser lui-même. Moi, j'ai jamais vu Patrick aussi allumé que sur le tournage. Mm. Puis c'était souvent ça que je remarquais quand je travaillais avec lui dans la friperie. Quand je parlais de choses adultes ou tu sais, plus profondes, je le voyais s'allumer. Parce que souvent, on le ramène souvent à cette différence, tu sais. Mm. Comme je voyais d'autres personnes interagir avec lui puis qu'il l'infantilisait un petit peu, là. Mm-hmm. Par exemple, il venait le voir avec un petit toutou, tu sais.
Ouais. Ouais, en tout cas. Mais c'est tellement... Moi, j'ai travaillé longtemps en déficience intellectuelle. Fait que c'est pour ça que c'était un projet qui m'était très, très proche. Et en tout cas, c'est vraiment dans ma talle de sujets qui me touchent. Puis... Je travaillais, moi, avec des personnes neuroatypiques, mais vraiment, la majorité était atteinte d'une déficience intellectuelle moyenne à légère. Donc, puis c'était des ados. Moi, j'avais juste un groupe d'ados, puis je leur apprenais des activités pour être autonomes. Puis ce qui revient tout le temps, c'est qu'on est toujours pris dans le piège des infantilisés plus qu'il faut.
Ouais.
Juste parce qu'ils ne s'expriment pas de la même façon, mais ultimement, ils ont une intelligence émotionnelle immense, tu sais. Puis c'est malheureusement des clichés qu'on véhicule sans... ad nauseam, sans même s'en rendre compte, puis des Rain Man, puis des films comme ça, ça, malheureusement, ça participe au préjugé. Puis je m'étais battue, je travaillais comme script sur des séries puis des longs-métrages, puis je travaillais pour, je vais taire le nom de la série, là, mais une série pour Radio-Canada qui, il y avait un personnage trisomique qui, dans l'histoire, avait 22 ans, mais comme elle était enfantine, elle était amoureuse d'un petit gars de 10 ans.
Okay.
Et là, moi, je me suis insurgée devant l'autrice. On avait, ben, en fait, c'était son script éditeur par chance. Puis j'étais comme ça, c'est de la pédophilie. Ouais. C'est pas vrai. J'ai rencontré dans mon parcours aucun jeune qui était attiré par une différence d'âge aussi immense. Non seulement t'es attiré par des gens de ton âge, puis t'es attiré par des gens, justement, pas neuroatypiques, tu sais. Mm-hmm. Parce que toi, eux, ils se perçoivent pas comme ça. Puis j'ai trouvé que c'était un cliché terrible qu'il fallait qu'elle soit attirée par quelqu'un qui a techniquement le même quotient intellectuel qu'elle, alors que cette fameuse idée que t'as 5 ans d'âge mental, c'est faux, ça existe pas, c'est tellement plus nuancé que ça.
Ben oui. Puis t'avais exploré ça aussi, là, on parle d'un tes précédents films, mais dans Meurthe, t'avais une personne trisomique.
Oui, c'est ça. Ben, c'était un autre sujet, mais c'était très inspiré de cette autonomie-là qu'on donne... à ces jeunes-là, mais c'est aussi, moi, dans Merge, j'explorais plus l'impact sur la famille, ou quand je travaillais dans c'était un camp de jour l'été à Montréal, puis c'était un camp de jour pour des gens neuroatypiques et en déficience intellectuelle, mais en plus de familles défavorisées, fait que c'était subventionné par le gouvernement, puis tous les matins, j'avais au moins 5 jeunes dans mon groupe que c'était leur petit frère ou petite sœur qui les ramenaient au camp, parce que Il n'y avait pas de gardienne. Puis, tu sais, le petit gars de 10 ans était en charge de sa sœur de 20 ans. Puis, sa sœur allait dans un camp de jour, puis lui, il ne pouvait pas y aller. Puis, il regardait à travers la clôture, puis il avait envie d'y aller. Fait que c'est pas meurtre, c'est pas cette histoire-là, mais c'était inspiré de comment on donne la responsabilité à la famille, parce que c'est tellement difficile de trouver des gardiennes, de trouver des gens qui vont s'en occuper. Là.
Puis pour jusqu'à ce que tu meurs, je ne veux pas rebrasser des vieilles émotions, mais je me souviens que tu as mentionné à la soirée d'ouverture que c'était inspiré de ta rupture amoureuse. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Ouais. Comment ça s'est tramé tout ça?
Bien, quand je dis ça, tout le monde pense que j'ai été en couple ouvert, puis c'est faux. Mais c'est un sujet qui est très, très proche de moi, où je l'ai vu beaucoup autour de moi, mais en fait... L'idée principale de ce film-là, c'est que, très naïve que j'étais, ma première relation amoureuse, quand on s'est laissé, moi, je pensais que tu laissais ton chum ou ta blonde parce que tu l'aimais plus. Mm-hmm. Puis la grande tragédie de mon premier couple, je pense, c'est qu'on s'aimait, mais on voulait plus la même chose.
Ouais.
Puis ça a été terrible pour moi parce que, tu sais, tes premiers amours, c'est tu crois quand même fort dur à l'amour impossible, puis là de dire comme hey, non mais on s'aime mais on ne veut pas la même chose, puis ça ne peut pas concorder. C'était surtout ça que j'avais envie d'explorer, mais surtout aussi c'est que je trouve que cette conversation là de couple ouvert, elle est ultra pertinente. Puis j'aime qu'on on voit l'idée du couple qui éclate, puis qui est plus monogame, puis qui est plus... Puis je pense que cette diversité-là est nécessaire à notre écosystème amoureux. Par contre, on aborde... Souvent, on a c'est très tranché. C'est soit « Hey, moi, c'est pas pour moi le couple ouvert » ou « Faut absolument que t'essaies », puis ça devient un peu très engagé, militant et drastique, alors qu'il y a tellement plus de nuances là-dedans. Puis je pense que si on apprend à en parler, c'est de la communication, le couple ouvert. Puis c'était un petit peu ça que j'essayais d'explorer dans le film, où cette conversation-là, quand tu reviens, elle est charnière. Puis j'avais envie de montrer, tu sais, c'est un couple que dans ma tête, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, mais c'est quand même encore des enfants, c'est en jeune. Fait qu'il faut comme jouer avec le bagage de ce couple-là amoureux depuis très longtemps, mais qui sont encore très, très, très juvéniles, puis qui communiquent pas bien.
Oui, puis qui ont leurs propres désirs aussi. Exact. Chacun des désirs différents, puis qui se font embarquer un peu dans quelque chose qu'ils sont peut-être pas sûrs de vouloir essayer, dans le cas du gars dans le couple.
C'est ça, on sent que l'idée vient du personnage féminin. Oui. Beaucoup. Ouais.
Mais c'est ça que je trouve intéressant aussi, parce qu'on dirait qu'il peut avoir un cliché un peu de... le chum qui va vouloir ouvrir le couple pour coucher avec plein de personnes. Mais tu sais, il y a pas ça dans le film, justement, ça vient de la fille. Fait que...
Puis c'était important pour moi que Léa, à la fin, c'est-à-dire elle flanche parce qu'elle aime son amoureux, puis elle a envie de préserver, elle n'est pas prête à le laisser aller, mais reste que ce qu'elle lui dit, c'est « j'ai besoin de ça ». Puis on comprend qu'ils ne pourront pas continuer, tu sais.
Ouais.
Puis ça, c'était important pour moi parce qu'il fallait que, tu sais, ultimement, les deux ont réussi à travers le film à exprimer leurs besoins. Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire, on comprend, on sous-entend pendant longtemps.
C'est très bien réussi aussi de ce côté-là. Gabrielle, tu l'as dit un peu tantôt, ton cinéma explore aussi nos relations intimes. Tu te rapportes souvent à la sexualité. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce sujet-là?
J'ai juste l'impression que... c'est tous les films que j'ai faits. Tu sais, mettons, je pense à Papillon Mauve, je me souviens que quand je l'ai fait, c'est que j'avais l'impression que les personnages avaient 13, 14 ans. J'avais l'impression que moi, quand j'avais cet âge-là, j'étais beaucoup en contact avec la sexualité par les vidéoclips, là, l'hypersexualisation de la femme. Tu sais. J'avais l'impression d'être quasiment mitraillée de sexualité, mais c'était mal vu d'être une jeune fille de cet âge-là, mettons, qui s'habille sexy. T'sais, on était rapidement réprimandés par rapport à ça. Puis je trouve qu'on voyait rarement des personnages féminins aussi jeunes avoir du désir. T'sais. Fait que moi, c'était ça le moteur, d'essayer d'exprimer ça, puis que ce soit réaliste. T'sais, comment tu fais pour te mettre dans le point de vue d'une jeune fille? T'sais, comment exprimer ce désir-là que... tu connais presque rien de la sexualité. Tu sais, c'est ça qui m'intéressait. Puis moi, c'est souvent le film précédent m'amène au suivant. Tu sais, c'est comme un travail de recherche, on dirait. Mm-hmm. Fait que je me pose pas tant de questions par rapport à ça. C'est plus, il y a des personnages que j'ai envie de raconter, leurs désirs, que j'ai l'impression que c'est pas assez vu. Même chose pour le personnage de Victor dans Nuit blonde,
t'sais, ouais.
De montrer qu'est-ce qu'on voit jamais, t'sais, peut-être.
Et moi, ce qui me fascine, c'est que tu as justement réussi à te plonger vraiment dans le personnage de Victor, qui est neuroatypique, raciste. Tu sais, je veux dire, tu es comme complètement à l'opposé de Victor, puis on ressent vraiment... En fait, ce que j'aime, c'est que tu as gardé la complexité du personnage. Puis pour moi, tout le jeu se joue dans l'échange d'argent.
Ouais, ouais.
Que je suis comme... C'est ça, parce que les deux profitent l'un de l'autre, mais profitent dans toute la beauté du terme, et non pas dans un machiavélisme. C'est que les deux s'apportent. Puis pour moi, là, le film a comme tellement pris une couche supérieure où on n'est plus juste dans un échange d'un côté. Tu sais. Puis je l'ai ressenti, ça, chez le personnage de Danny. De, c'est quoi son nom dans le film? En tout cas,
Jesse.
que ça lui faisait du bien faire ça, qu'il était content, mais en même temps, c'était pas... juste de la gratuité, hey, je vais te faire un service. T'sais.
Ouais. C'est comme si des fois, il y a des choses que tu peux juste raconter par la sexualité, t'sais, dans les rapports humains. T'sais. Parce que tout est sexuel, quasiment. Puis le cinéma permet d'aborder ces choses-là, comme le tabou des couples ouverts. Puis j'ai comme l'impression que pour ton film, Florence, c'est que ça donne la chance à tout le monde de réfléchir à son couple, ou même si t'es pas en couple, tu sais, ça me donne cet espace-là que si tu le vis dans ta vie, on dirait que ça peut être automatiquement confrontant.
Mm-hmm.
Puis en tout cas, c'est ça la beauté du cinéma, là. On dirait d'avoir cet espace mental-là pour réfléchir. Ouais.
Ouais. Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches de part et d'autre, soit sur le couple ouvert ou sur...
Ouais,
pour le personnage de Victor, j'imagine
beaucoup,
que oui.
Là, comme tu disais, Florence, je suis pas un homme noir autiste. Là, ouais. J'ai fait énormément de recherches par rapport à ça. Puis justement, il n'y avait pas tant de choses sur la sexualité des personnes TSA. T'sais. Donc, ça donnait une belle liberté, je trouvais. On dirait que je pouvais comprendre un peu les codes, mais que je me disais, le spectre est tellement large qu'il y a plein de possibilités, en fait. C'est que je peux pas me tromper. En autant que ce soit fait dans le respect, j'avais l'impression de pas pouvoir me tromper.
Mm-hmm.
Ouais, que ça allait pouvoir exister.
Je t'avoue, normalement, je fais full recherche. Mettons, je voudrais qu'on m'efface, ce n'est que de la recherche, là, quand j'écris ça. Mais pour ce film-là, c'était tout partait des personnages. Puis c'est aussi inspiré vraiment d'un couple d'amis.
OK.
Je l'avoue. Fait que c'est vraiment un mix entre ma relation puis la relation d'un couple d'amis d'une de mes meilleures amies. Puis j'ai l'impression que si tu respectes ton personnage puis que tu... C'est parce que c'est super cliché de se dire « Je me mets dans la peau du personnage », mais c'est pas facile.
Mm-hmm.
Puis il y a comme un tabou là-dedans où plus je scénarise, plus j'apprends là-dessus où... il faut pas que ce soit une marionnette, il faut que ce soit vraiment organique, tu sais. Puis c'est un peu ce travail-là que j'ai essayé de faire dans le film où il fallait que les deux aient leur complexité, puis que les deux aient leur propre contradiction aussi, tu sais. Puis ça a été plus ça, cette recherche-là, vraiment dans le dialogue, puis avec les comédiens, tu sais. Comme je disais, on avait vraiment pas beaucoup d'argent, mais Mylène, ma productrice, a été vraiment formidable, puis elle est embarquée avec moi où... Moi, j'ai dit, je veux moins de tournage, mais je veux des répètes.
Mm-hmm.
Puis j'avais pas d'argent pour les répètes normalement. Les comédiens étaient très généreux, mais on a eu 2 jours et demi de tournage. Mais on a pris, tu sais, au lieu de, mettons, 4,
mm-hmm.
puis on a pris cet argent-là pour vraiment pousser en répétition. Puis c'est là que le travail s'est fait aussi. Il y a beaucoup de points pivots dans le film où tu pars en rire, puis là, whoop, tout d'un coup, ça devient plus sérieux. Puis pour travailler ces moments-là, pour que ce soit vraiment... Encore une fois, j'utilise le terme organique plutôt que pour que ce soit moi comme scénariste qui dit « Ah là, faudrait que tu te sentes de même. » Ben non, c'est une conversation avec les comédiens. Ben, j'arrive pas à aller là, tu sais.
Ouais.
Il me manque tel step, puis là, on en discute, puis on travaille autour de ça, tu sais.
C'est très intéressant de ce côté-là. Je me demande comment vous avez approché les scènes d'intimité dans vos films. Jusqu'à ce que tu meurs, il y a quand même la nudité aussi.
Ouais.
Puis dans Nuit blonde, c'est une scène d'intimité avec justement une personne autiste. Fait qu'il y a un autre degré. Comment vous avez approché ça? Est-ce qu'il y avait des cordeaux d'intimité sur vos plateaux?
Ouais. Ben, on en parlait juste un peu avant de s'en venir. Moi, j'ai travaillé avec Mo Maton, qui est un coordonnateur d'intimité, puis ça a été vraiment une grande rencontre. Puis autant on peut voir la cordeau d'intimité comme un frein à la réalisation parfois, parce que t'es comme, ah, c'est des règles, puis il m'empêche de faire ça, puis ça. Mais autant, si tu le prends vraiment en amont dans ton processus de création, puis même jusqu'à dans l'écriture, puis que tu réfléchis à tout ça, ben Mo, il m'a vraiment aidé à non seulement chorégraphier, mais à vraiment aborder les comédiens. Puis, tu sais, comment on... Tu sais, il était présent aux pratiques, puis c'était comment on parle de nudité ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, toucher? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, c'est quelque chose de sexuel, quelque chose d'intime? Tu sais, puis de définir tout ça ensemble. Puis c'était très, très chorégraphié, mais il y avait quand même une grande, grande liberté avec les comédiens de dire, bien, ça, en fait, c'est qu'il faut que tu délimites ton carré de sable.
Ouais.
C'est juste... Voici mes limites, mais là-dedans, tu peux jouer autant que tu veux.
Définir les termes pour tout le monde, mais exact. C'est intéressant parce que c'est vrai que, ah oui, tu peux la toucher, mais qu'est-ce que ça veut dire, où, comment, puis
ouais.
C'est très intéressant.
Oui, nous, j'ai comme l'impression que c'était un tournage tellement particulier parce que justement, tu avais un acteur TSA, pandémie, 15 minutes de proximité par jour entre les acteurs. Donc, la journée où on tournait la scène intime, c'est que ça qu'on a pu faire parce qu'on avait juste 15 minutes.
Mm-hmm.
Moi, j'avais travaillé avec un coach de jeu spécialisé avec les personnes TSA. Puis en fait, ce qu'on a fait, c'est que c'était tellement, c'était tellement particulier qu'on a pratiqué beaucoup, beaucoup en amont. Là, t'sais, un peu comme toi, Florence, on a beaucoup misé sur les répétitions. C'était ça l'important. Moi, il n'y avait pas vraiment d'impro sur le set. Fait qu'en répétition, on a vraiment... décider avec les deux acteurs jusqu'où on pouvait aller. Est-ce qu'il a le droit de te toucher, là? Est-ce que ça dérange s'il fait ça? Puis, tu sais, moi, il n'y a pas de nudité, là. On voit non. Rien, là. Tu sais, puis les acteurs se touchent à peine.
Ouais, ouais. C'est plus suggéré.
Oui, c'est plus suggéré. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, puis même sur le set, on avait prévu d'avoir une doublure. Admettons que Patrick change d'idée la journée du tournage. Tu sais, on était préparés. Puis finalement, ça s'est vraiment bien passé. Puis on dirait que ce que je trouve intéressant de mentionner par rapport à ça, c'est que, tu sais, Patrick, il a comme une hyper sensibilité par rapport aux lumières, tu sais.
Okay.
Puis ce qu'on a fait, c'est que pendant la scène intime, on a placé un spot qui bougeait devant lui, fait que ça l'aidait dans son jeu de donner des réactions, parce que c'est ça, tu sais, il y a rien qui se passe là, pendant la scène, il flatte les cheveux de Jesse. Fait qu'on a joué avec lui, qui il est, tu sais, comment il réagit aux choses. Puis moi, j'y ai beaucoup expliqué, là, Patrick, durant cette scène-là, ce qu'on comprend dans le film, ce qu'on voit, c'est que Victor, il se fait faire une fellation par Jesse, tu sais. Puis c'est peut-être la première fois qu'il y a ça. T'sais, fait que c'est de vraiment expliquer, on va voir telle affaire, t'sais, pour pas qu'il y ait de surprise. Mais pour ce plateau très particulier-là, il n'y avait pas de coordonnateur d'intimité. Parce que le lien de confiance que j'avais avec mon acteur, il n'y a pas un cordeau qui aurait pu l'avoir autant. T'sais. Mais sur mes prochains films, je vais avoir des cordeaux d'intimité. Je pense que c'est important, mais que ça peut être du cas par cas. Par moment.
Mais je suis assez d'accord, tu sais, c'est chaque film est différent, puis tu sais, justement de mettre les moi je vois vraiment le tournage comme un terrain de sable aussi, puis je trouve que parfois on n'est pas assez malléable dans l'étape du tournage ou à cause des règles, à cause des techniciens, à cause de... puis tu sais, moi j'ai été technicienne pendant plusieurs années comme script, puis je comprends pourquoi ces règles-là existent. Par contre, je trouve que parfois, on s'empêche de pousser plus loin la création parce qu'on est dans
un cadre rigide.
Exact. Puis c'est sûr que ça coûte cher oser essayer de bouger avec ça, mais tu sais, je m'intéresse beaucoup à tous les types de tournages alternatifs où, par exemple, les frères Dardenne, ils ont une très petite équipe. Ils coupent beaucoup dans les postes pour vraiment concentrer leur argent dans les locations. Fait qu'au lieu de... Tu sais, nous, normalement, un tournage, ben tu loues l'appartement pendant 2 jours, tu tournes toutes tes scènes d'appartement, puis après, tu loues l'école, tous tes trucs d'école. Puis les Dardenne, ils louent toutes leurs locations tout le long du tournage. Puis ils tournent en continuité. Fait qu'eux, ils tournent leur scène, ils l'écoutent le soir, ça marche-tu, ça marche-tu pas? Non, on va aller la retourner. Ou sinon, OK, on continue l'histoire. Puis là, à force que leur montage se fait, ils se rendent compte que, hey, non, il nous faudrait une autre scène où on retourne à l'école. Fait qu'on retourne à l'école. Puis c'est malheureux parce qu'au Québec, on peut pas toujours se le permettre, puis je comprends, mais je pense quand même qu'on peut se permettre une plus grande flexibilité. Puis tu sais, juste le fait qu'on ait pris le choix de dire on va avoir moins de tournages, mais plus de répètes. Puis on avait comme une espèce de demi-journée où on essayait les changements d'éclairage. Mm-hmm. Ben ça fait que quand on tournait, tout ce qui était technique, puis tout ce qui devait être placé avait déjà été placé, fait qu'on était que dans la création.
Ouais, je comprends.
Puis ça, je pense que de plus en plus, il y a des producteurs, mais c'est vraiment une conversation à avoir entre créateurs, producteurs, de dire comment on peut jouer un peu avec la matière du tournage. Puis comme c'est un peu ce que tu as fait avec les lumières, c'est qu'il faut vraiment que tu les mettes dans un état, tes comédiens, il faut que tu leur permettes de vivre ça. Tu sais, nous, sur le set, tout le monde chuchotait tout le temps. Puis c'était un plateau ultra fermé. Fait que, tu sais, ma maquilleuse venait même pas sur le set à peine, tu sais. Ouais. Elle était proche, elle était stand-by, mais...
Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand tu parles de flexibilité, moi, je me souviens avoir tourné des scènes intimes, puis les acteurs, ça les dérangeait que les gens chuchotent.
Ah ouais, hein.
Tu sais, mettons mon actrice dans Papillon Mauve, il y a comme une scène où il faut qu'elle se masturbe, elle était comme, Gab, pourquoi tout le monde parle pas fort? On dirait que c'est grave, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, c'est ça, on dirait qu'il n'y a pas de règle.
Non, c'est ça, il faut que tu t'adaptes. Mais c'est comme, j'étais script sur Noémie dit oui.
Ouais.
Puis, un moment donné, c'était tellement lourd à porter pour Kelly de faire toutes ces scènes de sexe-là. Que un moment donné, ben, elle a dit hey, j'aimerais ça que ce soit un peu plus ludique sur le plateau. Fait que là, on avait toutes des oreilles de lapin, des colliers hawaïens, des. Parce que là, tout le monde était tellement de oh mon Dieu, c'est tellement tough, ce que tu vis, t'es bonne, lâche pas, non, non, que là, ça ajoutait à sa lourdeur. Oui, fait que là, un moment donné, on a fait comme bon, OK, là, ça suffit. Quand la scène finit, on n'est pas dans le mode de, oh my God, c'était rough, puis on est en mode de hey, la vie continue, ça va bien, comment ça a été ta fin de semaine, puis on change de sujet, tu sais.
Ah oui. Ben c'est ça, c'est des sujets touchés. Ben là, Noémie dit oui, c'est sûr que l'ambiance devait pas être super festive, mais c'est le fun que vous ayez pu rendre le plateau un peu...
Ouais, ben Geneviève, la réalisatrice, a vraiment été excellente là-dedans aussi.
Pour savoir bien s'entourer
exact.
En tant que cinéaste.
Ouais.
Je me demande, si on revient un peu plus sur les thématiques que vous approchez dans vos films, est-ce que vous croyez que vos films ont le pouvoir de briser les tabous, justement, que vous abordez?
Moi, je pense qu'avec Nuit blonde, oui. J'ai l'impression que juste de montrer une sexualité qui est peut-être pas idéale, mais qui existe, ça peut amener des discussions. Puis j'espère que ça peut-être... changer la mentalité de certaines personnes par rapport au travail du sexe, là, de peut-être être plus ouvert, puis de voir que parfois, c'est peut-être la seule façon pour quelqu'un d'avoir une sexualité. Ouais, je pense que le cinéma a ce pouvoir-là.
Mais je pense que c'est un piège de... On dirait que moi, je me retiens de vouloir faire un film pour dire quelque chose. Parce que là, tu tombes dans la morale, dans la morale, puis... Tout de suite, le spectateur le perçoit, ça. Puis c'est l'affaire qui me gosse le plus dans les films, je pense. Par contre, je pense qu'effectivement, le pouvoir du cinéma, c'est surtout de générer de l'empathie. J'avais fait des... Je m'étais égarée là, pendant la pandémie où je me remettais en question. Puis là, j'avais tout lâché, j'étais retournée aux études. Puis je voulais devenir prof au secondaire pour être bien utile. Mais bref, j'avais pris des cours de littérature. Puis il y avait une théorie de Michael Bakhtin qui m'avait... absolument happé, puis c'était comme ça s'applique tellement au cinéma aussi, c'est la posture de distance que ça t'oblige à avoir avec la fiction. C'est-à-dire que quand tu racontes une histoire, ben oui, tu te mets dans la peau du personnage, mais cette espèce de distance-là entre toi, tu le sais que t'es pas le personnage, mais que t'arrives à le comprendre, cette espèce de pas de recul-là, c'est tout là le jeu qui développe l'empathie. Parce que t'es quand même capable de prendre un pas de recul puis dire « je condamne ça, je suis pas d'accord ». Mais après, je comprends pourquoi il le fait, tu sais. Parce que c'est faux que le spectateur va faire comme « Oh mon Dieu, je me mets complètement dans la place du personnage. » Parce que la preuve, si finalement ton personnage, tu le fais tuer sa mère, il va quand même être choqué, puis pas d'accord. T'sais. Mais il y a vraiment une espèce de posture de distance qui provoque cette empathie-là que moi, j'ai envie de créer dans mes œuvres où l'important pour moi, c'était pas qu'est-ce que les gens vont changer d'avis par rapport au couple ouvert à la fin du film? C'est plus de provoquer une conversation pour montrer les nuances.
C'est ça.
C'est
un moteur ça peut être un moteur de changement au sens où on montre les choses finalement, puis pas pour dire, comme tu dis, « Hey, faudrait faire ça » ou...
Puis les films qui me touchent le plus, c'est ceux qui te laissent de « je sais pas ce que j'aurais fait, moi ». tu sais.
Ouais.
Cette espèce déjà d'exposer la complexité d'une relation, d'une situation, d'une personne, d'un dilemme, puis de pas donner de réponse, ben déjà ça te montre que c'était pas facile, tu sais, puis que c'était pas évident, puis que tu peux pas condamner quelqu'un de pas avoir pris la même décision que toi.
C'est vrai.
Très bonne porte-parole du film.
Non, mais c'est intéressant parce que tu sais, on pose cette question-là des fois, puis est-ce que tu penses que tu peux changer la société avec ouais. le cinéma? Puis tu sais, je pense que la plupart des cinéastes le pensent un peu ça, mais faut pas non plus tomber dans se sentir
ben, c'est
comme...
Ça. Je pense, ben surtout en art où... C'est quelque chose que je me pose beaucoup comme question de ta place comme artiste. Puis ce film-là en particulier, j'avais tellement peur que ce soit insignifiant. J'avais peur ouais. que... Moi, je savais que je voulais explorer quelque chose de très, très simple puis de très épuré. C'est-à-dire que je voulais pas m'égarer. C'est pour ça que j'avais choisi le huis clos. C'est pour ça que j'avais choisi ce moment-là. Puis j'étais toujours hantée par l'idée de faire comme... Pourquoi je veux raconter ça? T'sais, c'est pas comme si le couple ouvert, ça déterminait ma vie. Pis, mais de montrer deux âmes sensibles qui sont touchées par cette situation-là, qui est, je pense aussi... Puis justement, je pense que le plus grand danger dans lequel je voulais pas tomber, puis peut-être que je l'ai fait un peu, mais c'était de pas condamner le couple ouvert, puis de juste de montrer que ça peut être une solution. Mais le film est pas à propos de ça. Le film est pas « Regardez comment le couple ouvert, ça fonctionne pas. » Le film est sur... On veut pas la même chose, on a des désirs ouais. différents.
C'est le sentiment de rupture amoureuse dont on parlait tantôt, ouais. finalement, qui ressort de ouais. ça.
Mais moi, j'ai l'impression que dans ton film, le personnage féminin laisse quand même quelque chose. T'sais. Le fait qu'elle décide de « Ah, on laisse tomber, t'sais, mm-hmm. on revient comme avant », moi, j'avais l'impression qu'il y avait de quoi de briser pour elle de toute façon. T'sais. Puis je trouvais ça intéressant de montrer que justement, elle est peut-être prête à abandonner quelque chose. Parce que j'ai l'impression que les femmes ont fait beaucoup ça. Mm-hmm. Et je trouvais ça juste à ce niveau-là, ouais.
Pour moi, je le voyais plus comme... j'essaie de retenir l'amour, même si tout mon corps... Elle vient de le dire avant, tu ouais. peux pas faire ça, j'ai besoin de ça. Mais après, quand tu comprends la perte que ça génère, ben là, tu reviens en arrière. Puis l'idée de la chrono, c'est un peu ça aussi, là. C'est l'histoire de la dernière nuit d'un couple qui bascule dans le souvenir de leur première nuit ensemble. Puis mm-hmm. c'était un peu pour refléter ce flot de pensée-là quand tu laisses quelqu'un. Mais en tout cas, moi, mon réflexe, c'est de penser au bon moment puis de te dire, oh, mon Dieu, j'ai-tu fait la bonne décision? Fait que c'était un peu ça, ce sentiment-là que je voulais évoquer dans le basculement à la fin.
Je change un petit peu de sujet, mais je veux vous emmener sur d'autres projets sur lesquels vous travaillez, parce que Florence, ben, tu es co-scénariste sur « Je voudrais qu'on m'efface ». Puis je sais que Gabriel, tu travailles présentement sur une adaptation de « Querelle à Robert Val » de Kevin Lambert. Puis « Je voudrais qu'on m'efface », c'est une adaptation ben, d'un livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis je me demande, en tant que scénariste un peu, ben, à quoi attribuez-vous la popularité des adaptations de romans, puis comment vous vous y prenez pour adapter ça à l'écran?
Bien, c'est sûr que les auteurs, ils passent tellement de temps à penser à la psychologie de leurs personnages que pour moi, c'est comme si la littérature et le cinéma, c'est deux arts qui se complètent vraiment bien. On dirait que c'est comme un match parfait, en fait. Puis ça fait juste donner une œuvre plus profonde, je sais pas comment dire. Puis moi, dans le cas de Querelle de Robert Val, c'est juste je suis tombée en amour avec ce roman-là. C'est comme mon roman québécois préféré de tous les temps. Mm-hmm. Tu sais, puis je sais pas, j'ai toujours été vendue par rapport aux adaptations là, dans l'histoire du cinéma. Puis tu sais, bon, je mettre personne à dos, là, mais tu sais, je trouve pas qu'au Québec, on a énormément de cours de scénarisation là, dans les écoles de cinéma. Florence et moi, on a fait un bac à l'UQAM, puis il n'y a pas vraiment de cours de scénarisation au bac, tu sais. Fait que je trouve que c'est comme une façon peut-être un peu plus française ou à l'américaine de travailler justement avec des auteurs qui... Moi, non, pour ma part, tu sais, Kevin, excellent dialoguiste, là. Je pourrais jamais atteindre son niveau. Fait que, tu sais, je pense qu'on dirait qu'on est comme une équipe, là, tu sais, qu'ensemble, on va pouvoir aller plus loin, tu sais, fait que c'est très nourrissant, hein. Ouais.
Nous, notre adaptation, c'était très différent. En fait, c'est que dans tous les cas, l'inspiration, ça vient de la matière qui existe, de la matière vivante. Ouais. Puis même la plus grosse science-fiction du monde, ça part de sentiments humains, tu sais. Fait que ce soit un livre ou la réalité, pour moi, ça vient de la même chose. C'est un livre qui m'a touchée, donc j'ai vécu des choses, donc on a eu envie d'en parler, Éric et moi, quand on a écrit ça. Mais par exemple, je voudrais qu'on m'efface, si vous avez lu le roman, on est très, très loin du roman, tu sais. On a transposé ça on a changé le quartier. Ensuite, tous les enfants dans le roman, c'est au primaire, nous, on les a mis au secondaire. Fait que déjà là, tous les enjeux changent. On s'est vraiment inspiré de la structure, mais moi, ce que j'aime dans l'idée de l'adaptation, c'est de prendre l'essence de quelque chose qui t'a touché, mm-hmm. mais d'assumer que t'en fais une œuvre différente, t'sais. J'ai moins d'intérêt à faire un copier-coller d'un roman. Mais tu vois, là, avec dans une idée de vraiment collaborer avec l'auteur, je pense que ce serait différent. Anaïs, nous, elle nous a donné carte blanche, ouais. t'sais, puis elle n'était pas impliquée après. Elle avait déjà adapté Le Ring qui vient d'une des histoires de « Je voudrais qu'on m'efface ».
Ouais.
Donc, c'est comme si elle avait déjà mis en image cinématographiquement ce qui l'habitait dans son roman. Donc, nous, c'est ça, elle nous a donné carte blanche, puis on s'est vraiment écarté du roman, mais en gardant ce qui nous avait habité. T'sais. Puis ça c'est un processus que j'adore. Puis on écrit une autre série pour Radio-Canada présentement où on adapte okay. aussi un roman de Jean-Simon Desrochers. Puis on travaille avec Jean-Simon, puis même lui a cette flexibilité-là qui est magnifique, où on prend encore une fois l'essence de son roman, on garde certains personnages, puis son roman, c'est une chronique, puis on en fait un thriller. Là. Mm-hmm. Fait que c'est très, très différent, mais c'est le fun de partir d'un univers, d'une matière, comme tu dis, de personnages extrêmement riches où la recherche a déjà été faite, puis là, tu fais juste l'amener ailleurs, tu sais.
Mais c'est ça, c'est une adaptation, fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec cet univers-là tant que l'auteur est content du résultat, idéalement. Je me demande s'il y a une grande différence quand on scénarise un court-métrage, un long-métrage ou une série télé. Est-ce que ça vient beaucoup jouer sur le travail qui est fait ou ça se ressemble un peu tout?
Ben moi, c'est sûr que là, c'est mon premier long-métrage. Là, donc ouais. Je peux pas, mais c'est sûr qu'en court-métrage, on dirait qu'il n'y a pas de règles par rapport à la structure. Il y a quelque chose de très libre. Puis en long métrage, on dirait qu'on se rend compte que c'est vraiment important d'être beaucoup plus structuré là, pour amener ton spectateur où tu veux l'amener. Mais moi, on dirait qu'on est en train d'écrire en ce moment.
Ouais, c'est
ça. Je ne peux pas te dire encore. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le fun de... En long métrage, tu peux plus approfondir tes thématiques, là, c'est mm-hmm. sûr. Mm-hmm.
C'est quand même une posture très différente où tu peux appliquer les mêmes règles de scénarisation avec un court comme avec un long. Mais tu sais, déjà, mettons la différence entre la série puis le long-métrage ou le court-métrage, c'est qu'on part quand même d'une structure très, très différente où le court puis le long, on est dans quelque chose de plus linéaire, tandis que la série, on parle d'une structure en arborescence, tu sais. Mm-hmm. À l'exception près de certaines séries, mais c'est que tu pars des personnages, puis là, chaque personnage, tranquillement, a leur propre intrigue qui vient se mêler aux branches d'un autre personnage, mais c'est quand même une structure très, très différente. Mm-hmm. Pour moi, le cours, c'est plus un terrain de jeu où... J'adore les cours aussi où ils nous présentent juste un ton.
C'est ça.
Une espèce de feeling très, très précis, puis si cette précision-là est bien exécutée, c'est suffisant pour moi. Mm-hmm. En long, c'est quand même un voyage que t'impliques au spectateur. Tu peux pas faire un plan fixe pendant une heure qui bougera pas, on appelle ça une toile, tu sais.
Ouais.
Puis c'est un autre objet d'art, mais je pense que tu as une responsabilité en tant que scénariste dans un long ou dans une structure plus longue d'au moins proposer un voyage à quelqu'un, tu sais. Ouais. Ça peut être un voyage de 2 mm là, ta personne aussi elle peut dans sa transformation de personnage, elle peut revenir exactement comme elle était à une différence près, mais je pense qu'il y a ce devoir là d'engager du changement mm-hmm. dans ce que tu proposes.
L'arc narratif doit être plus présent. Mais c'est vrai ouais. que, comme tu le dis, le court-métrage, c'est ça qui est le fun. C'est que ça peut être juste des petits flashs, une idée, puis c'est mm-hmm. quelque chose de super court et tout. Mais c'est toujours le fun aussi d'approfondir ça en balado, puis de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ouais. ces petits flashs-là, justement.
Puis ça, puis j'aime beaucoup ce que tu as dit, Gab, plutôt, où un film mène à l'autre, tu sais. Puis j'ai vraiment l'impression que ce terrain de jeu-là en court-métrage te permet de... Tu sais, moi, avec Jusqu'à ce que tu meurs, l'exploration de la forme un petit peu comme ça, de la temporalité, ben c'est quelque chose que je veux vraiment continuer à travailler dans mes autres projets. Tu sais, j'écris présentement un long-métrage qui est vraiment teinté de réalisme magique où de plus en plus, je suis attirée par des films qui s'ancrent pas complètement dans une narrativité puis une réalité très, très brute. Mm-hmm. Puis je me dis, ouais, on écrit de la fiction, tant qu'à écrire de la fiction, toutes les portes nous sont ouvertes puis sont permises. Puis d'ouvrir ces petites brèches-là où tout d'un coup... Tu sais, moi, dans mon film, c'est un film qui se veut très, très réaliste, mais il y a des fantômes, tu sais.
Okay.
Mais les fantômes appartiennent à l'univers où, à un moment donné, ils sont pas remis en question, où c'est pas tout le temps « Mon Dieu, c'est un fantôme », tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, Stéphane Lafleur le fait bien aussi. Mm-hmm. C'est un style qui est très latino-américain, là, mais je trouve ça le fun qu'en court-métrage, cette espèce de petite plage-là, de terrain de jeu, d'essayer ces glimpses-là qui vont te mener vers le long.
Vers le long, éventuellement. Mm-hmm. En terminant, avez-vous d'autres projets, à part ceux qui ont été mentionnés, qui s'en viennent sur votre table?
Moi, je suis très monoprojet, on dirait.
Oui, là, mais c'est bien correct.
Je veux que ce soit Querelle de Robert Val, mon prochain film. Ouais.
ouais, moi j'ai pas mal d'affaires. mais c'est un grand enjeu dans ma vie. Il faut que j'apprenne à dire non et me structurer. Mais j'ai écrit de la série avec Eric, avec qui on écrivait Je voudrais qu'on m'efface. On a deux séries. Mais je développe un long métrage avec Microscope. Donc ce projet-là est en écriture aussi. Puis. Un court-métrage documentaire.
Génial! Ben, on suit tout ça. On a bien hâte de voir, pour ce qui est des courts-métrages à regard, oui. Ce que ça va donner. Merci, les filles, d'être venues à regard le balado.
Merci.
Je vous souhaite une bonne fin de festival.
Merci.
Merci.
Regard le balado a été enregistré au Centre d'expérimentation musicale pendant la 27e édition du Festival Regard, le festival international du court-métrage au Saguenay qui s'est déroulé du 22 au 26 mars 2023. Les épisodes ont été produits et réalisés par la généreuse équipe de Balado Boréal et n'auraient pu exister sans le soutien du Bureau du cinéma de Saguenay qu'on remercie. Merci aussi à Charles-Maxime Lemay, à la prise de son et au montage. J'envoie également toute ma gratitude aux cinéastes qui ont accepté de venir partager ces moments avec moi. Entendre toutes vos histoires a été un réel plaisir. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à aller suivre la page du festival sur les médias sociaux pour ne rien manquer et être au courant de toutes nos activités. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt.
Une production Balado Boréal.